L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On est content et on a également nos amis sur enseigne-moi.com qui sont avec nous. Alors on dit bienvenue à ces gens-là, à tous ceux qui ont soif pour plus de Dieu et qui ne sont pas religieux, mais qui sont prêts à apprendre des choses peut-être nouvelles pour eux, pour finalement vivre des nouvelles choses dans la présence de Dieu. Amen. Alors on va pencher nos têtes, on va prier et on va vraiment inviter la présence de Dieu dans cette place pour nous aider à comprendre. Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta sainte parole. On te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es ici, par ton esprit, pour nous révéler ces choses-là que tu veux qu'on apprenne. On te loue, Seigneur Jésus, parce que chaque personne dans cette place, chaque personne reçoit plus de toi aujourd'hui. Je te remercie pour la liberté qui règne dans cette église. Je te remercie, Seigneur, que rien de manquant, rien de brisé sur la tête de chaque personne, mais ils sont couronnés de ta bonté et de ta miséricorde. Et aujourd'hui, je décrète la liberté au niveau de leurs pensées. Ils sont affranchis au nom de Jésus pour recevoir leur héritage en Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles, mais il y a toutes sortes de choses qui se passent en Égypte et dans les pays voisins également. Et je peux vous dire que tout est en train de se préparer pour le gouvernement mondial. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu des choses de l'Apocalypse, mais on le sait que tout est en train de se diriger dans cette direction-là. Et comme les choses vont de pire en pire dans le monde, pour le peuple de Dieu, ça va aller de gloire en gloire. Mais quand je dis ça va de gloire en gloire pour le peuple de Dieu, je parle du peuple de Dieu qui est renouvelé par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est être renouvelé par la parole de Dieu au lieu de croire la tradition des hommes. Amen. Parce que si vous croyez la tradition des hommes, vous allez recevoir l'héritage des hommes. Mais on veut l'héritage de Dieu. Donc, faut comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu croit à notre sujet. Par la suite, on commence à penser comme Dieu pense et on se met en position pour recevoir l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Donc, comme j'ai dit la semaine passée, vous pouvez écouter ce message aujourd'hui. Vous pouvez, on a parlé comment il y a beaucoup de gens qui roulent les yeux quand on entend parler de la bonté de Dieu, où les gens disent, bien, c'est très beau, mais en réalité, c'est pas pour moi. Si vous faites ça, vous êtes déplacé ici pour rien, parce que ça va rien changer dans vos vies. Si vous dites, ça marchera pas pour moi, je peux vous certifier, ça ne marchera pas pour vous. Amen? Je peux vous le dire. Ça marche pas. C'est vrai, ça marche pas. Pour toi, ça marche pas. Mais pour moi, ça marche parce que je dis que ça marche. Amen. Donc, ça dépend de votre confession, ce que vous croyez, ce que vous voulez de la part de Dieu. Mais je peux vous dire que Dieu dresse devant vous ce matin un buffet, un banquet. Si vous voulez partager et manger avec lui, vous asseoir à sa table et recevoir ses promesses dans votre vie, sont là pour vous, si vous voulez y croire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je fais juste un survol un peu de qu'est-ce qu'on a vu depuis 3 semaines. On a parlé que dans Genèse 1, verset 26, que Dieu avait délégué à l'être humain l'autorité dans le Jardin d'Éden. Par la suite, l'homme a cédé cette autorité à Satan. Il a été séduit et puis il a cédé cette autorité-là à Satan. En fait, il a pris la décision. C'est pas juste une séduction, mais il a pris la décision d'être rebelle contre Dieu. Et en cédant son autorité à Satan, Satan est devenu le dieu de ce monde dans 2 Corinthiens 4:4. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a racheté cette autorité-là et puis il l'a remis à l'Église. Donc, nous sommes en autorité sur cette terre, dans notre sphère d'influence. Donc, ceci veut dire, c'est que s'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, pour nous, pour l'enfant de Dieu, qui prend cette autorité qui lui a été remise par le Seigneur Jésus, parce que Christ est la tête de l'Église, son Église, c'est nous. Si nous marchons dans l'autorité des enfants de Dieu, bien, nous pouvons changer des choses dans nos vies, parce qu'on est la police contre les choses de l'ennemi. L'ennemi veut venir nous voler, nous égorger, nous détruire. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour nos vies. Mais nous, en étant en Christ et avec cette position d'autorité, étant la police, on peut dire à l'ennemi, tu viens pas me voler, tu viens pas m'égorger, tu viens pas me détruire. Ça, c'est notre autorité si on marche dedans. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que Jésus a payé pour le pardon de leurs péchés, mais ils ne savent pas qu'ils ont le droit d'empêcher l'ennemi de venir les voler, les égorger, les détruire. Qu'est-ce qui se passe? On a autant de chrétiens qui sont malades, autant de chrétiens qui vivent toutes sortes d'horreurs. Et puis, en plus, non seulement est-ce qu'on croit qu'on n'a pas d'autorité, mais en plus, on va blâmer Dieu avec ces choses-là. Et là, on va dire que Dieu est en train de nous travailler notre caractère par toutes sortes de choses. J'ai connu une femme qui a eu le cancer et puis elle me disait, plein de chrétiens venaient la voir pour lui dire, « C'est quoi que le Seigneur t'a enseigné par ça? » Mais cette femme-là est venue me voir et elle dit, « Je ne sais pas quoi dire. » J'ai dit, « Tu n'as rien appris, tu n'avais rien à apprendre parce que le cancer, ce n'est pas l'école de Dieu. » Le cancer, ce n'est pas l'école pour l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit et sa parole qui nous conduit dans toute la vérité. Amen? Amen. Donc, Dieu n'a jamais dit, bon, je vais vous donner un petit cancer, je vais vous donner un petit diabète, peut-être là, vous allez apprendre une leçon. Ce n'est pas de Dieu, ça vient du diable. C'est clair. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez croire Dieu, ça vient, ce qui vient voler, égorger, détruire, ça vient de Satan. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons été rachetés de la dominion de Satan et nous sommes appelés à marcher dans l'autorité sur ces choses-là et d'empêcher l'ennemi de régner dans nos vies à tous les niveaux. Amen. Alors, c'est ça qu'on a vu depuis les deux dernières semaines. Et cette semaine, on va voir d'autres choses. Vous savez, on a parlé donc de l'autorité qui a été donnée à l'homme, l'autorité qui a été cédée. L'homme à Satan, l'autorité qui a été rachetée. Et on a vu la semaine passée, on a commencé à voir comment on peut exercer cette autorité-là, parce que c'est pas assez de savoir que oui, ça nous appartient, mais il faut savoir également comment exercer cette autorité-là. Et aujourd'hui, on va voir dans toutes ces choses-là, comment se positionner dans cette autorité que l'on peut exercer. Mais on va commencer premièrement avec Éphésiens chapitre 2 et le verset 12. Éphésiens chapitre 2 et le verset 12. En passant, je peux vous dire que cette semaine, moi, j'ai vraiment ressenti la résistance dans l'esprit concernant le message qui s'en vient ce matin. Alors, si vous êtes là, gloire à Dieu, mais vous êtes là, c'est pas si, hein, vous êtes là. Je vois pas des fantômes, vous êtes là. Vous êtes là et Dieu voulait que vous soyez là, mais le diable ne voulait pas que vous veniez ce matin. Si vous avez ressenti un petit peu d'opposition, ben c'est normal, parce que l'ennemi de vos âmes ne veut pas que vous entendiez ces choses-là, parce que qu'est-ce qu'il veut pour vous? C'est vous garder soit dans l'ignorance ou dans l'incrédulité, mais les deux, ça revient à la même chose, on passe à côté. Mais ce matin, on va voir plein de bonnes choses que ça en réserve pour ses enfants. Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 12, il est écrit, dans Louis II, ça dit, « Souvenez-vous, et dans la Bible du Sommeur, par le reste, en ce temps-là, vous étiez sans Messie. » Ça nous parle ici des gentils, OK? Les gentils qui n'étaient pas dans l'Alliance d'Israël. C'est-à-dire, en ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ici, ça nous parle des gens qui sont en dehors de l'Alliance qui est prévue pour nous. Vous étiez sans espérance. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Si vous vous sentez des fois comme si vous êtes sans espérance, bien c'est parce que vous croyez que vous êtes sans Dieu. Parce que quand vous êtes avec Dieu, en Dieu, vous avez de l'espoir. Amen. Vous avez de l'espoir et vous avez Dieu avec vous. Donc, ça fait toute une différence pour l'enfant de Dieu qui reçoit son autorité en Jésus. Et dans Hébreux chapitre 2 et le verset 15, je vais vous lire dans Parole de vie. Ça dit, les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Peut-être vous avez déjà eu peur de la mort. Peut-être ça fait longtemps parce que vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années puis maintenant vous êtes totalement libre. Mais peut-être vous êtes un chrétien et vous avez peut-être encore peur de la mort. Bien, ça dit dans la parole de Dieu que ceux qui ont peur de la mort sont esclaves. Je vais le relire. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Libérés de quoi? De la peur de la mort. Amen. Ça veut dire, moi, je n'ai pas peur de la mort parce que si je meurs, bien, gloire à Dieu, je m'en vais avec Dieu au ciel. Ça va être le party extrême, glorieux. Ça va être merveilleux. Mais j'ai pas peur de la mort non plus parce que je marche dans sa protection divine. Je marche dans sa protection divine aujourd'hui. Amen. Et ce que Dieu nous appelle aussi à comprendre, c'est que, bon, ça c'est le monde normal qui marche dans le désespoir, dans la crainte. Vous savez que la crainte, c'est l'opposé de la foi. En fait, c'est la foi pervertie. Si vous marchez dans la crainte dans votre vie, si vous avez peur d'une chose, peu importe, à droite, à gauche, il y a des choses qui se passent, et vous avez une crainte, ça veut dire que vous relâchez votre foi dans ce qui peut vous arriver de mal. Ça, c'est d'avoir la foi dans l'œuvre de Satan. Voyez-vous, c'est une perversion de la foi. Mais, en fait, Dieu nous appelle à marcher dans la foi et avoir notre espoir et notre confiance en Dieu. Quand on a notre confiance en Dieu, on n'est pas esclave de la crainte. OK? Et ce que Dieu veut, c'est que le monde, même si eux, ils ont leur héritage, le désespoir, la crainte, Dieu veut qu'on soit renouvelé et qu'on réalise la proximité de notre Dieu. Et ça, c'est une des choses. Quand on comprend qu'on est proche de Dieu, ça change tout. Dans 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 12, ça nous dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Voyez-vous, le Seigneur, il est tellement préoccupé par ses enfants. Ses yeux sont sur le juste. Il recherche les justes sur la terre. Ceux qui ont confiance, ceux qui ont été pardonnés, qui ont été justifiés, ceux qui ont la révélation qu'ils sont justes, bien Dieu recherche ces gens-là pour être capable d'entendre leurs prières. Et pas juste les entendre, mais pour exaucer également. N'est-ce pas merveilleux? Donc Dieu est proche de nous. Dans Hébreux 13, verset 5, ici, je vais vous lire un texte. Ça dit, « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ça veut dire que Dieu dit qu'il va toujours être avec nous. Amen. Dieu est toujours avec nous. Mais combien de fois, des fois même avant de partir en auto, dans un long voyage, on dit, « Oh Seigneur, sois avec nous, protège-nous. » Et c'est correct de prier, « Oh Seigneur, protège-nous. » C'est correct. Mais une des choses, si on a une difficulté à voir que Dieu est vraiment avec nous, on a un problème. Parce que vous savez, moi je pense, on a juste à remercier Dieu parce qu'il est avec nous. Voyez-vous, au lieu de dire, « Seigneur, viendrais-tu avec nous nous protéger? » On s'en va dans une place dangereuse. « Seigneur, viendrais-tu avec moi? » Ben, je suis déjà là, mon enfant. Je suis déjà là parce que j'habite en vous. Amen. Éphésiens 2, 22, ça dit que nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit ou en Esprit. Une habitation de Dieu. Vous savez pas peut-être, mais Dieu est en moi. Et si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est en vous. Parce que vous l'avez reçu, vous avez été pardonné, et puis il est venu habiter en vous. Et dans 1 Corinthiens 3, 16, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, des fois, on pense toujours que Dieu est très loin. Mais étant son enfant, racheté, non seulement est-ce que Dieu a racheté l'autorité, mais il nous a racheté et on fait partie de la famille de Dieu. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est en nous, avec nous. C'est merveilleux. Donc, moi, je peux me promener sans crainte parce que j'ai le Créateur de l'univers qui est en moi et qui prend soin de moi. Amen. Ça, il y a rien de plus glorieux que ça, que savoir que Dieu est avec nous. Amen. Donc, sachant tout ça, il y a les gens qui ont cette crainte de la mort, qui ont peur, tout ça. Dieu a donné à son Église l'autorité de marcher dans cette autorité-là au niveau de la protection divine. Et des fois, on peut voir des chrétiens, on dit, mais comment ça, telle ou telle chose s'est produite dans la vie d'un chrétien? OK, je comprends pas, il y a telle chose qui s'est passée. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que Dieu ne nous appelle pas à être l'avocat de Dieu. Il nous appelle à être son journaliste. Amen. Ce qu'on fait, on parle des bienfaits de Dieu, on ne défend pas Dieu. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont accuser toutes sortes de choses. Ils vont mettre ça sur le dos de Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas à venir le défendre. Dieu nous appelle à être son porte-parole. Et de pas créer des explications théologiques pourquoi telle ou telle chose s'est produite dans la vie d'un chrétien, parce qu'on ne connaît pas comment chaque chrétien marche avec Dieu. Amen. On ne connaît pas toujours toutes les situations qui entourent une personne qui est peut-être chrétienne. Donc, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de mettre notre foi, pas dans les expériences autour de nous, notre foi exclusivement dans la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est un retour à la parole de Dieu et de ne pas changer notre focus de la parole aux expériences. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, si vous détachez vos yeux de la parole de Dieu et vous commencez à regarder à droite et à gauche et de toutes les directions pour voir si les chrétiens autour de vous ont bénéficié de l'héritage du chrétien, bien vous allez perdre foi. Vous allez dire, ben ça marche pas. Regarde tante Judith, mon oncle Albert, regarde tous ces gens-là qui aiment Dieu, mais pourtant eux, ils ont passé à côté de plein de choses. Mais Dieu ne nous appelle pas à juger ces gens-là. Dieu nous appelle à se juger et de voir, sommes-nous dans la foi? Amen? Donc, c'est juste ça. On ne juge pas les gens autour de nous, mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est se remplir de la parole de Dieu pour se juger soi-même, pour voir si nous, on marche dans cette autorité et au niveau de la protection divine. Alors, on va regarder ce matin des choses concernant les jugements qui s'en viennent. Comme j'ai dit tantôt, il y a des choses qui se passent en Égypte. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde. Mais on va voir aussi des choses concernant la loi spirituelle des semences et de la récolte. Donc, je vais vous inviter à tourner dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Ici, on va voir la loi, OK, concernant la loi des semences et des récoltes. Parce que si nous voulons marcher dans la protection divine, on doit absolument comprendre ce principe-là, premièrement. Dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si on vit dans le péché, on vit dans les choses qui sont contraires au plan de Dieu pour notre vie, on fait des semences dans la chair. Et Dieu dit que ces semences-là vont donner une récolte de corruption, donc de mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on fait des semences dans le monde, les semences dans les choses qui sont contre la volonté de Dieu pour nous, que Dieu veut premièrement nous épargner de ces choses-là parce qu'il connaît, il sait que c'est contre nous et c'est pour notre destruction. Mais si on fait des semences dans la chair, on va récolter la corruption, que vous soyez un chrétien ou non. Si vous semez des bananes, que vous soyez chrétien ou non, ou des tomates, ou peu importe votre semence, si vous semez, des tomates, bien, c'est pas parce que vous êtes un chrétien né de nouveau que vous n'allez pas avoir des tomates. N'est-ce pas? Si vous semez dans la chair et vous êtes un chrétien charnel, bien, vous allez récolter la corruption dans vos vies. On comprend ça. Donc, mais la bonne nouvelle, Dieu nous dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si vous dites, oui, mais j'ai déjà semé dans la chair, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis obligé de vivre toute cette semence-là qui s'en vient, ou toute cette récolte plutôt, cette récolte de mort? Est-ce que je suis obligé de récolter ces choses-là parce que j'ai semé ces choses-là? Bien, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez être protégé en brisant ces choses-là au nom de Jésus, en déracinant ces vieilles semences-là. Vous pouvez faire du ménage dans votre jardin, en autre mot. Et Dieu nous le dit comment? Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 31. 1 Corinthiens 11, 31. Ça dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si vous jugez que cette chose-là que vous aviez faite, et vous savez qu'il va avoir des conséquences, ok, des fruits, ça peut faire toutes sortes de choses terribles dans votre vie. Mais là, vous dites, au nom de Jésus, je discerne, je juge que cette chose-là que j'ai semée, elle est mauvaise. Au nom de Jésus, je déracine cette chose-là et j'appelle une faillite dans cette récolte. En anglais, on appelle ça « crop failure ». En français, une faillite dans la récolte. Vous allez dire, oui, mais regarde, j'ai fait tel crime. Bien, il y a des choses qu'on a faites, ok, qui ont une conséquence directe, qu'on ne peut pas empêcher, mais on peut limiter l'ampleur souvent dans ces choses-là. Mais en général, quand je parle des principes spirituels, si on a semé dans la chair, admettons vous avez fait toutes sortes de choses, il va avoir des conséquences. Admettons si vous avez commis l'adultère et votre épouse, votre mari vient de la prendre et puis la personne est déchirée, son cœur est brisé, il y a des conséquences à ces choses-là. OK? Mais si, il y a quelque temps, vous avez semé et là, vous avez eu le temps d'empêcher cette récolte de souffrance, vous pouvez briser ces choses-là et l'annuler. Vous comprenez ce matin? Donc, vous pouvez venir contre ces choses-là et appeler une faillite dans cette récolte. Ça, c'est merveilleux. Je vais le relire. Ça dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Ça veut dire que le jugement qui s'en vient sur ces choses-là, que Dieu va envoyer, OK, mais ces choses-là ne passeront pas sur nous. Le jugement ne passera pas sur nous parce que nous avons été purifiés et le sang de l'agneau nous libère de ces choses-là. Amen. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 139, verset 23, le psaume 139, 23, ça dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on prend notre temps avec Dieu, on dit, « Seigneur, montre-moi si j'ai des choses, des semences dans ma vie, si j'ai des choses dans mon cœur qui sont mauvais, le Seigneur va nous montrer, voici mon enfant, le chemin que tu dois prendre maintenant. » Et Dieu va nous libérer de ces choses-là. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Parce que Dieu veut que ses enfants puissent avoir leur foi dans ce que Dieu veut faire pour eux, l'héritage des croyants. Mais si dans le fin fond de notre tête, on se dit, ben moi, je suis pas capable de vivre la bénédiction de Dieu parce que j'ai fait des mauvaises semences, vous allez lier et captif de votre passé toute votre vie. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui d'être libéré du passé. Amen. De tourner la page et dire avec Dieu, moi, je m'attends de vivre maintenant. Je vais semer dans les choses de l'Esprit et je vais récolter la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Si vous voulez la vie éternelle, semez dans les choses de Dieu. Semez dans l'Esprit. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Prenez du temps à entendre la parole de Dieu. Soyez saturés de la parole de Dieu. Prenez du temps dans la prière. Soyez saturés de l'Esprit de Dieu dans votre temps de prière. Et vivez dans une nouvelle dimension dans votre vie chrétienne. Ça va changer votre vie. Amen. Donc, Dieu nous donne l'autorité, OK, de faire du ménage. Il n'y a personne d'autre qui va venir faire du ménage dans votre vie. Mais c'est à vous d'aller faire du ménage. Et peut-être vous vous dites, mais là, moi, j'ai commis telle chose contre quelqu'un. Savez-vous, vous pouvez aller vous repentir et demander à la personne, écoute, j'ai fait telle ou telle chose, et puis je sais qu'il y a toutes sortes de conséquences qui viennent, mais je te demande de me pardonner de cette chose-là. Tu m'as pardonné, mais maintenant, je te demande à toi de me pardonner. Vous allez voir comment Dieu peut faire un miracle dans ces conséquences-là. Amen. Parce qu'on sert un Dieu de l'impossible. On sert un Dieu du surnaturel. Amen. Dieu nous donne le privilège, l'autorité de se positionner dans la protection physique. Pensez-vous que c'est important aujourd'hui de savoir que vous avez l'autorité d'être protégé, l'autorité d'aller vous protéger en Dieu? Oui, c'est important. Il n'y a pas un chat qui a dit oui. Mais je peux vous dire, c'est important. C'est important. Je vais vous inviter ce matin, on va aller dans le psaume 91 et on va prendre du temps ce matin à méditer sur ce texte-là. On l'a lu déjà dans cette église parce que c'est pas la première fois que j'enseigne sur la protection divine, mais je sais que dans les jours dans lesquels nous vivons et les jours à venir, les temps vont aller de pire en pire. C'est une réalité. C'est une réalité. Et si vous écoutez les nouvelles, vous voyez les choses se passer dans le monde. Mais moi, je veux que cette assemblée soit renouvelée par la promesse de la parole de Dieu. Cette promesse de la protection divine. Votre foi doit être ancrée dans cette parole-là. En passant, j'ai déjà lu ce texte-là, j'étais béni de lire ce texte-là, et je me disais, mais comment est-ce que les gens ne peuvent pas croire? Comment est-ce que les gens qui croient Dieu, les chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas croire dans la protection divine? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé un peu les discussions qu'on pouvait voir, les enseignements de certains théologiens, et qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que ce texte-là, c'est de la poésie. Donc, puisque c'est poétique, on ne peut pas s'approprier ces promesses-là. Moi, je peux vous dire que Dieu peut inspirer quelqu'un dans la poésie. Ça ne veut pas dire qu'on va tout d'un coup dire, ben, ça vaut rien. Amen? Quand Dieu parle, savez-vous, quand Dieu parle, ça vaut la peine d'écouter. Ça se peut que Dieu parle en poésie, ça ne veut pas dire que oubliez tout ce que je viens de dire. Non, si Dieu parle et nous donne des promesses, moi, je vais dire oui et amen à ces promesses-là. Mais le choix vous appartient. Vous faites ici et dire, ben c'est pas pour moi. Ça serait triste parce que vous allez vivre des choses terribles. Mais si vous dites, c'est pour moi. Moi, je crois Dieu et je vais choisir de me positionner dans cette autorité-là spirituelle. Ben gloire à Dieu. Moi, je crois que vous allez vivre des grandes choses avec Dieu. Donc, dans le psaume 91, on va lire ça ensemble. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, on voit, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Quand vous êtes dans l'ombre de quelqu'un, c'est parce que vous êtes assez proche de Dieu que vous puissiez demeurer sous son abri. Vous êtes proche de lui. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Remarquez, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est un décret ici. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur ou du chasseur, de la peste et de ses ravages. Savez-vous qu'on entend parfois parler de la peste, de la maladie, que de toutes sortes de choses. Vous avez entendu parler sûrement de la grippe aviaire, ça c'est il y a quelques années, par la suite H1N1. Bon, ben Dieu dit au verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre de ces choses-là. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ici, on parle de l'armure du croyant. Un bouclier, c'est pas une patente comme ça, puis c'est comme ça, là. On parle d'une protection. On vit dans cette protection divine. Pour ceux qui y croient. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez très bien ce que Dieu nous dit. Si vous opérez dans la dimension de la crainte dans vos vies, vous venez d'annuler toute cette parole-là. C'est impossible, premièrement, de plaire à Dieu dans la crainte, sans marcher dans la foi. Et comme j'ai dit tantôt, la crainte, c'est l'opposé de la foi. À chaque fois que des gens dans la parole de Dieu, quand ils vivaient une expérience surnaturelle, soit un ange, peu importe, on entendait toujours les paroles suivantes. « Ne crains point. » Vous vous rappelez de ces choses-là? Parce que la crainte annule la foi. Donc ici, qu'est-ce qui est merveilleux? Verset 5, ça dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Ici, on parle de la plaie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux. Seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quand on parle des méchants, on parle de ceux qui sont en dehors de l'alliance de l'Éternel. Ceux qui ne font pas partie de cette provision-là. Ça me bénit au bout. Je vais le relire. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté. Pensez-y, que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Voyez-vous, encore une fois, il vient de décréter. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Quand Dieu est notre refuge, vous êtes dans une place en sécurité. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. C'est une bonne place à aller faire une retraite. Dans le très haut, c'est une bonne place à aller. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Ici, ça nous parle des œuvres de l'ennemi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Encore une fois, la même chose. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Voyez-vous, quand on connaît notre Dieu, on connaît le nom de Dieu, on connaît notre héritage, et quand on l'aime vraiment, ça dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il n'est pas dans l'ignorance, il ne croit pas la tradition des hommes, il ne se fait pas avoir par tout le monde, les croyants qui disent, ben c'est pas pour toi. Non, ils connaissent Dieu. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. On peut vivre dans la détresse tout autour de nous. Mais Dieu dit, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. Ça, c'est l'héritage pour l'enfant de Dieu qui croit dans la parole de Dieu et qui accepte ce rapport pour soi-même. Amen. Amen. Donc, Dieu nous dit comment faire. Celui qui demeure. Qui est au contrôle de votre situation spirituelle? Est-ce que c'est Dieu qui décide si vous allez passer du temps avec lui dans la prière? Non. Est-ce que c'est Dieu qui décide que vous allez prendre du temps dans la parole pour vous exposer à sa parole? Non. C'est vous. Vous décidez si vous allez proche de Dieu. Vous décidez si vous passez du temps avec le Seigneur. Dieu dit, si tu t'approches de moi, je vais m'approcher de vous. Amen. 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 Dans Ésaïe 54, verset 17, je vais vous donner d'autres versets ici. Ésaïe 54, verset 17, ça nous parle de l'autorité que nous avons. Ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice ou en jugement contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quand on parle de salut, encore une fois, on parle de délivrance. Telle est la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça veut dire que personne n'a l'autorité de vous maudire. Si quelqu'un vous lance une malédiction, vous avez l'autorité de briser toutes ces choses-là au nom de Jésus. Parce que ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève en jugement ou en justice contre toi, tu la condamneras. Tu nous donnes l'autorité d'annuler ces paroles-là. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, des choses qu'on doit comprendre concernant le jugement divin. Pour arriver à cette place de confiance dans la promesse de Dieu, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment le jugement fonctionne. Alors, je vais vous inviter à tourner dans Exode chapitre 12 et le verset 23. Exode chapitre 12 et le verset 23. Le contexte ici nous parle des 10 plaies d'Égypte. On parle que ici les premiers-nés devaient mourir sous le jugement. Je veux vous faire remarquer quelque chose vraiment d'important ici. On va voir deux passages super importants pour comprendre, pour faire la différence entre notre Dieu et le diable. Vous allez faire la différence aujourd'hui et par la suite, on va voir comment on se positionne vraiment, sûrement dans ces choses-là. Dans Exode chapitre 12, verset 23, c'est dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Une des choses qu'on doit remarquer, souvent dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu ou quand on parle de jugement, on voit le nom d'associé avec le nom de Dieu associé au jugement. Mais une des choses qu'on doit comprendre ici, c'est que Dieu, la façon que ça fonctionnait dans l'Ancienne Alliance, c'est que Dieu permettait à Satan, OK, d'aller faire telle ou telle chose. Ce n'était pas Dieu lui-même qui faisait ces choses-là. Dieu, tout simplement, il enlevait sa main de protection et puis là, l'ennemi était libre pour venir apporter la destruction. Et on va le voir aussi dans la Nouvelle Alliance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 5, des choses qu'on doit comprendre. Quand le destructeur voyait le sang qui représentait le sang de Jésus, le destructeur ne pouvait pas venir frapper cette maison-là avec le jugement. Voyez-vous l'importance du sang de l'agneau? Et j'ai un enseignement complet sur l'autorité qu'on peut avoir avec le sang de l'agneau. C'est des choses, on peut pas nécessairement tout voir dans cette école sur l'autorité du croyant, mais on a besoin de comprendre et recevoir la révélation du sang de Jésus. L'enseignement, je pense, c'est le 1er novembre 2009. J'enseignais couronné de son sang. Et on peut prier pour nos enfants, décréter la protection divine sur nos enfants. Et on voit une protection qui s'établit dans nos maisons. C'est super important. Dieu nous donne ses armes, sa parole, son nom et son sang. Ça fait partie de notre héritage. Ici, on voit dans Exode, bon, le sang. Le sang était une protection. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, ici, c'est concernant un cas d'inceste, un homme en union avec sa belle-mère. Au verset 5, l'apôtre Paul, il dit, « Qu'un tel homme soit livré à Satan » en vue de la destruction du mal qui est en lui, pour la destruction de la chair dans Louis II, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Voyez-vous ici, il n'a pas dit « livrez-le à Dieu pour que Dieu le détruise ». Non, on va le livrer à Satan. On le laisse entre les mains de Satan. Il n'y a plus rien à faire en ce moment à ce niveau-là. Alors, c'est Satan qui venait détruire la personne. Est-ce que c'est le cœur de Dieu? Certainement pas. Certainement pas. C'est pas le cœur de Dieu. Mais c'est pas le cœur de Dieu non plus que ce jeune homme-là couche avec sa belle-mère. Voyez-vous? Donc, c'était dans l'Église, ça devait être éradié de l'Église, ce péché. Donc, une des choses, je suis en train de parler du jugement, parce qu'il y a du jugement qui s'en vient, parce qu'il y a des gens qui ont semé dans la mort, ils ont semé dans le péché, et il y a une récolte qui s'en vient dans le monde, qu'on le veuille ou non. Il y a une récolte qui s'en vient. Et je me souviens, c'était le 25 ou le 31 décembre en 2009, juste l'année passée, j'ai eu une vision de ces nuages qui s'en venaient avec le jugement. Ça représentait le jugement. Et pas longtemps après, en France, j'ai vu des nuages. Ben, j'ai pas vu de mes yeux, mais quand j'avais eu ça en vision, j'avais vu ces nuages-là. Et quand je me suis retrouvé en France, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un nuage qui nous empêchait de retourner au Canada à cause de ce volcan. Pour moi, ça a juste été un clin d'œil de Dieu qui me disait, c'est vrai, ces choses-là, on rentre dans une saison de récolte. Ce que nous avons semé dans le passé, on va le récolter à moins d'appeler une faillite dans ces choses-là. Mais ici, c'est important de comprendre parce qu'on ne veut pas marcher dans le jugement qui s'en vient, on va se juger soi-même. Une des choses qu'on doit examiner également, c'est si on marche dans la crainte. Dans Job chapitre 1 et le verset 10, remarquez très bien ici, Job chapitre 1, le verset 10, Satan dit à Dieu, « N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de Job, autour de sa maison, autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. » Donc, ici on voit que Dieu avait protégé son serviteur Job. Et j'aime le texte dans la version Bible du Semeur. Ça dit, tu as élevé comme un rempart ou une clôture de protection. C'est impossible de faire quoi que ce soit contre lui parce qu'il est protégé par Dieu. Mais vous savez également que Job marchait dans la crainte. C'est écrit dans Job chapitre 3, verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On sait que Job, même si c'est un homme de Dieu qui ne marchait pas dans le péché, il n'avait pas fait cette semence-là, mais il a ouvert une porte légale à l'ennemi par la crainte, qui est l'opposé de la foi. Ça lui a donné une autorité. l'égal à Satan. Parce que dans Job 2, 6, la Bible du Semeur, j'aime vraiment comment c'est écrit dans la Bible du Semeur parce qu'on ne le voit pas dans d'autres textes. C'est dit, l'Éternel dit à Satan, il n'a pas dit, OK, je te donne la permission, vas-y faire ce que tu veux. Remarquez qu'est-ce qu'il dit. Il est en ton pouvoir. Quand on fait une recherche dans l'hébreu, il est dans ton autorité. Mais épargne sa vie. Voyez-vous, Job avait ouvert une porte à l'ennemi pour venir. Il ne savait pas, mais il marchait dans la crainte. Il faisait toujours des sacrifices pour ses enfants, de peur que quelque chose se produirait dans leur vie. Il marchait dans cette crainte-là, mais il ne savait pas, mais qu'il est en train d'opérer dans le territoire de l'ennemi. Parce que la crainte ne fait pas partie du royaume de Dieu. Il marchait dans la crainte, il avait peur, il marchait dans la crainte. Et puis là, Satan vient accuser Job, qui marchait dans la justice, il marchait dans un bon chemin. Mais Dieu a répondu, il est sous ton autorité, il est dans ton domaine d'autorité. Ce rempart-là venait d'être brisé par la crainte. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire comme enfant de Dieu? On veut faire attention de marcher dans la foi, être des gens de foi, être des gens qui croient à la parole de Dieu, où on discerne également ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Satan. Les textes que je vous ai lus concernant le jugement et comment les gens sont livrés à Satan, c'est pourquoi je vous partage ça. C'est pour vous montrer que le Dieu qui est bon a des bons plans pour vous et c'est même pas Dieu qui punit comme ça. Il enlève sa main de protection et l'ennemi vient détruire les gens. Parce que notre Dieu, dans le psaume 145, nous parle qu'il est rempli de bonté. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si on marche en dehors ses principes, dans son royaume, si nous marchons dans la crainte, si nous marchons dans le cycle de la mort, si nous faisons des semences, il va y avoir une récolte, frères et sœurs. Mais Dieu nous dit, je vous ai donné l'autorité. Vous pouvez choisir de marcher dans mon royaume. Vous pouvez choisir de marcher dans la foi. Vous pouvez choisir de marcher dans les promesses de Dieu. Et en faisant ces choix-là, ce qui est merveilleux, on se juge soi-même et on fait le ménage dans nos vies. Et là, on peut dire oui et amen au psaume 91 qui est des promesses. Ce sont des promesses pour l'enfant de Dieu. Voyez-vous, vous avez le choix, enfant de Dieu. Mais il y a trop de croyants qui disent, c'est beau le psaume 91, mais regarde dans ma vie, mais ils prennent pas le temps de s'évaluer et voir, écoute, est-ce que je marche dans la crainte? Est-ce que je marche même dans la médisance? Est-ce que j'ai ouvert toutes sortes de choses? Est-ce que je marche dans le royaume de l'ennemi, dans mon monde pratique? Mais si on fait du ménage, on dit, moi je marche dans le royaume de Dieu, là vous pouvez prendre ces promesses-là et vraiment y croire. Amen. Amen. Et vous savez, tout ça, là, ce que je viens de vous partager, c'est seulement possible lorsque nous comprenons qui nous sommes devenus en tant qu'enfants de Dieu. Quand vous réalisez qui vous êtes vraiment, là, c'est possible. Le restant va suivre. Regardez dans 2 Corinthiens 5, 21. Il y a des gens, peut-être, vous vous dites, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre parfaitement? Ça semble être très difficile de bénéficier des promesses de Dieu. Faut être parfait, coudonc? Oui. Mais savez-vous, la perfection ne vient pas de vous. Une des choses qu'on doit comprendre dans le corps de Christ, c'est que quand Dieu nous a sauvés, il nous a placés en Christ. Quand nous sommes en Christ, la Bible dit que nous sommes parfaits, irrépréhensibles. On est parfaits, on est appelés saints, les saints de l'Éternel. Quand on est en Christ, nous sommes dans notre position de perfection. Mais souvent nos yeux sont sur notre condition humaine. Là, on marche, on a des problèmes, ici puis ça. Puis là, on marche dans cette condition et notre foi est pour les promesses pour cette condition-là. Mais faut comprendre, faut avoir la révélation que nous ne sommes plus, nous ne marchons plus dans notre condition, mais que Dieu prend cette condition-là et l'élève à notre position. Et spirituellement, on peut croire pour les promesses dans notre position en Christ. Remarquez très, très bien. C'est super important que vous puissiez vous voir comme étant ces personnes-là pour qui les promesses s'adressent, pour les justes de l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, ça nous parle de Jésus. Ça dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez dit, Seigneur, pardonne-moi tout ça, lave-moi dans le sang, purifie mon cœur, tout ça. Dieu dit de vous que vous êtes devenu la justice de Dieu. Je vais le relire parce que vous ne croyez pas encore. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus, qui n'a jamais commis de péché, Dieu a fait devenir péché pour nous. Il a porté les péchés de l'humanité sur lui. Il a porté toute la conséquence du péché sur lui. Il a souffert, le martyr sur la croix. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand vous me voyez, vous voyez la justice de Dieu. Vous voyez le sein de l'Éternel. Si j'étais pécheur, mais par le sang de l'agneau, j'ai été purifié et je suis 100% pur. Je suis 100% pur. Et même, je dirais une autre chose, je suis aussi pur que Jésus est pur. Ça dérange des gens religieux. Comprenez, c'est que je suis aussi pur que Jésus parce que ma pureté ne vient pas de moi. Si elle venait de moi, ben, je marcherais dans ma condition. Mais je marche dans ma position en Christ. Et puisque je suis en lui, je suis parfait. Demandez ça à ma femme. Je suis un homme parfait. Je suis un homme parfait. Pas à cause de mes efforts personnels, parce que j'ai été déclaré juste à cause de l'œuvre de la croix. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a une guerre contre ce message aujourd'hui. Il y a une guerre contre ce message, une guerre de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il veut faire contre la justice de Dieu, contre le message, la révélation de la justice de Dieu, qui nous sommes vraiment? La guerre, c'est de faire en sorte que vous deveniez ou vous restiez esclaves du péché, avoir le règne du péché et de ses semences dans vos vies. Il y a une guerre à ce niveau-là dans le monde. Mais il y a également une guerre religieuse. Et je dois vous le dire, il y a une guerre religieuse contre le message de la justice qui nous sommes devenus en Christ. Cette guerre religieuse, qu'est-ce que ça dit? C'est que vous êtes un pauvre pécheur sauvé par grâce. Un pauvre pécheur sauvé par grâce. C'est un message contre la justice de Dieu. C'est une conscience du péché. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Là, vous avez été pardonné. Mais s'il peut au moins vous faire vivre dans une conscience de pécheur, une conscience de péché, vous allez marcher dans le péché, vous allez semer dans le péché et vous allez récolter la mort dans vos vies. Terre à terre. C'est ça qu'il veut. Il veut vous garder dans cette conscience que vous êtes un pauvre pécheur. Cette semaine, j'écoutais la radio. Faut se faire attention quand je conduis en écoutant la radio chrétienne. Parce qu'il y a toutes sortes de mensonges. Un prédicateur, il prêchait un beau message avec une belle musique dans le fond. C'était tellement beau, mais tellement erroné. Il disait, vous devez vous voir. Il parle aux enfants de Dieu. Vous devez vous voir comme des pauvres pécheurs. Et c'est en anglais, j'ai pris ça en note. Il dit, you are a recovering sinner. Recovering sinner. Ce qui veut dire un pécheur en récupération. En train de récupérer de votre vie de péché. Vous êtes un pauvre pécheur en récupération. Savez-vous, ou le mot peut-être en restauration, peu importe, mais c'est totalement erroné, c'est pas ça que Dieu veut. Si on a cette conscience-là que je suis un pauvre pécheur, lui, il disait, vous devez vous voir comme un pauvre pécheur parce que ça va vous garder dépendant de la grâce de Dieu. Oh non, monsieur, je suis pas obligé de me voir comme un pauvre pécheur pour être dépendant de la grâce de Dieu. J'ai la révélation que c'est par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu que je peux marcher cette vie chrétienne, mais c'est parce que j'ai été justifié. Parce que j'ai été déclaré juste et toutes les promesses de Dieu sont pour moi, pas parce que j'ai mérite, c'est pas parce que je mérite quoi que ce soit, c'est parce qu'il a tout payé pour moi. Aujourd'hui, moi là, je peux déraciner toutes ces choses-là parce que je marche dans mon autorité en tant qu'enfant de Dieu, je suis juste et le diable est sous mes pieds, puis il n'y a aucune autorité sur ma vie. Alors moi, je peux prendre ces promesses-là puis dire ça, c'est à moi. Le psaume 91, ça l'appartient à moi, je suis le juste de l'Éternel. Je suis le saint de Dieu. Amen. Dans Hébreux 9, 14, ici ça nous parle en comparaison au sacrifice d'animaux, ça dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Dieu va purifier notre conscience des œuvres mortes. Ça veut dire qu'il veut que cette conscience-là, des vieux péchés du passé, que ça soit purifié. En anglais, ça dit « purge ». Ça veut dire que ça soit éradié de notre vie, de notre tête, que ça ne fait plus partie de notre identité. Voyez-vous, votre identité, ça doit être le chrétien, le justifié, la justice de Dieu sur deux pattes. C'est qui vous êtes. Amen. On pourrait passer une heure juste sur la justice de Dieu. On va regarder d'autres versets. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, pas un vieux pécheur sauvé par grâce. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on regarde dans le grec, ça dit une nouvelle sorte. En anglais, on dit species, une nouvelle espèce de personne. Sans précédent. Une récréation totale. Je suis une nouvelle personne en Christ. Vous connaissez tous Romains 3:23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce verset-là, on l'entend toujours. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, parce qu'on a tous la mentalité dans l'Église de Jésus. Tout le monde parle de péché, puis on se voit toujours comme des pauvres pécheurs. Mais le verset qui suit, remarquez bien, je vais même prendre verset 22, le verset avant et après. Ça dit, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. Croyez-vous ce matin? Ben, c'est pour vous. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Verset 24. Ils sont déclarés justes par sa grâce. Tous ont péché, mais, ça dit, vous êtes déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Oh, dans 1 Corinthiens 1:30, ça dit que Dieu nous rend justes. Il nous a libérés du péché. Dans 2 Corinthiens 6:14, ça parle de vous comme étant la lumière. La justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu et la lumière dans ce monde. Dans Romains 5:18, ça parle que la justification donne la vie et s'étend à tous les hommes. Si la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 7, ça dit « L'homme est comme les pensées de son âme. » Si vous voyez ce matin comme étant la justice de Dieu, vous pouvez relâcher votre foi pour toutes les promesses pour vous. Toutes les promesses au niveau de la sécurité dans le monde dans lequel nous vivons. Vous croyez, je fais partie du corps de Christ. J'en ai pas honte. Je pense pas que je suis un petit morceau, que je suis un petit moins que rien, que j'ai pas peur à ces choses-là. Mais non, l'autorité du croyant qui a été rachetée, c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour que je puisse marcher dedans. Dieu m'appelle pas à vivre le jugement qui s'en vient. Mais Dieu vient nous protéger de ces choses-là. N'est-ce pas merveilleux? Oh, je prie que vous êtes des personnes, que vous deveniez des personnes de foi, que vous croyez que Dieu fait l'exception pour vous. Pendant 3 semaines, on a parlé de l'autorité du croyant. Maintenant, c'est pas assez juste d'être des auditeurs et peut-être des auditeurs oublieux. Non, mais c'est d'être des auditeurs qui vont dire oui, je marche dans cette autorité-là. Et quand l'ennemi va venir contre vous avec toutes sortes d'affaires, surtout avec le doute, il peut venir semer des pensées, ça marchera pas pour toi. Ou des gens, des chrétiens qui aiment beaucoup Dieu, mais qui sont ancrés dans la tradition vont vous dire, mais non, Dieu veut pas ça pour toi. Non, Dieu veut que tu sois malade, Dieu veut que tu sois ci comme ça. Puis ils vont tous vous dire des mensonges. Là, c'est à vous de prendre votre autorité et de ne pas croire les mensonges, mais de croire uniquement ce que Dieu dit. Que votre pensée revienne au psaume 91, que vous puissiez méditer sur ces textes-là et que ça devienne une réalité dans vos cœurs. Quand il y a une tempête de neige, là, j'ai pas peur. C'est sûr qu'on court pas après des accidents. Il faut user de sagesse. Mais je peux vous dire, si on est pris dans une situation dangereuse, j'ai aucune crainte parce que Dieu est avec moi. Amen. Vous pouvez marcher dans une sécurité dans votre cœur, une sécurité sachant que Dieu est là. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Et gloire à Dieu, je suis protégé. Je suis un enfant du bon Dieu. Et les témoignages qu'on entend partout à travers le monde où Dieu a fait une exception pour ses enfants, il les a protégés et il les a libérés d'une situation dangereuse. Oh, ça, c'est pour moi, c'est pour le Québec aussi. C'est pas juste pour les autres pays, c'est pas juste pour les gens en Chine qui sont protégés, mais c'est pour vous, enfants de Dieu. Mais pensez comme Dieu. Si vous dites, ben on est comme ça ici au Québec, oh, changez de profil, changez d'identité, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la justice de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont pour vous, oui et amen. Et si on dit oui Seigneur, on voyait Dieu va faire une différence. Et savez-vous, hier, j'étais en train de me préparer pour ici, puis le Seigneur m'a donné une parole pour cette église. Puis j'ai dit, ça peux-tu vraiment, Seigneur? Mais savez-vous, quand Dieu me parle, moi, j'essaie d'écouter et de croire. Dieu m'a dit, non seulement, on a des gens qui partent d'une heure, il y a des gens qui partent de Sherbrooke pour venir à l'église, il y a des gens qui partent de Longueuil. Je suis fier de vous, vous avez affronté les 2 pouces, ben, pas 2 pouces, un pied de neige. Je suis fier de vous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup plus, dépendamment si on met de la neige dans des buts, en tout cas. Mais tout ça pour dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait hier, c'est que tu n'as rien vu, Joël. Il y a des gens qui vont conduire 2 heures pour venir à l'église, à cette église. 2 heures. Là, quand ça est venu dans mon esprit, j'étais, hein? C'était comme impossible. Parce que qui ferait ça, conduire 2 heures? Savez-vous, des gens qui ont soif? Si là, les gens, si vous commencez à vivre des choses surnaturelles, une protection surnaturelle, les gens, savez-vous, ils vont commencer à entendre parler de ces choses-là. Quand les gens autour ici, là, moi, je peux vous dire, on n'est pas entré encore dans le summum de la gloire. Moi, j'ai la foi que Dieu va faire beaucoup de grandes choses. Mais Dieu est en train de préparer ce troupeau. Dieu est en train de nous envoyer de l'aide. Dieu est en train de développer plein de choses parce que Dieu se veut un peuple où il va pouvoir se glorifier. Et moi, je dis, ben, Seigneur, on se laisse choisir par toi. Seigneur, fais qu'est-ce que tu veux dans nos vies. Seigneur, on veut croire ta parole, on veut pas croire les hommes, on veut croire ce que toi tu dis, et ça vient te glorifier. Et là, savez-vous, les gens, ils vont prendre leurs 2 heures. Il y a une sœur qui tient à notre assemblée, notre sœur Donna, en français, excusez. Notre sœur Donna, elle disait qu'elle marchait de Granby comme dans son pays, au Congo, c'est ça, Congo. Elle voyageait des heures et des heures et des heures et des heures pour aller à l'intercession. Il y a des gens, là, qui ils marchent parce qu'ils veulent aller prier avec le peuple de Dieu. Ils sont en feu. Savez-vous, il y a des gens qui vont faire 2 heures de route pour venir à l'église parce qu'ils savent il y a quelque chose là pour moi, il y a une provision surnaturelle. Et quand on a ouvert cette église, puis j'avais dit aux gens au tout début, moi je ressens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont déménager pour se joindre à cette église, ça venait de Dieu, parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Comme j'ai dit la semaine passée, on est en train de vivre dans un miracle, enfant de Dieu. Puis c'est pas gloire à nous, ça n'a rien à voir avec nous, on n'a rien à voir là-dedans. La seule chose qu'on dit, c'est oui, et toute la gloire revient à Dieu. Oui, papa, gloire à toi, Seigneur. Sers-toi de nous, fais quelque chose avec nous. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est un peuple de foi. Si on est un peuple de foi, savez-vous, Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Si c'est à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, là, il y a un petit mur de « Ah, Dieu peut pas, Dieu peut pas, Dieu peut pas. » Dieu peut pas rien faire quand on dit « Dieu peut pas ». Mais si on dit « Seigneur, viens faire qu'est-ce que tu veux », là, il dit « Ah, super, là, j'ai un peuple qui sont prêts à moi. » Alors, gloire à Dieu, je prie, ma prière, c'est que ces enseignements-là sur l'autorité du croyant, que ça fasse partie de qui vous êtes maintenant, que vous ne laisserez plus jamais le diable venir vous dominer dans vos vies, dans le péché, vous dominer dans l'incrédulité, vous dominer dans la maladie, peu importe, laissez-vous pas dominer, prenez votre autorité en tant qu'enfant de Dieu, soyez la police que Dieu vous appelle à devenir et à être, et voyez votre vie transformée au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange ce matin. Gloire à Dieu. On va le louer. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. On va chanter. On va louer le Seigneur ensemble. On va célébrer parce que Dieu est bon. Puis je vous invite cette semaine, méditez sur le psaume 91. Laissez ça vraiment toucher votre cœur, transformer votre vie. Commençons à vraiment y croire. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Il est toujours bon. Méditez aussi sur le psaume 145. Si vous avez de la misère à croire que Dieu est bon, lisez le psaume 145. C'est super bon aussi. Il est plein de bonté et de miséricorde. Amen. Gloire à Dieu.
Tu nous donnes. Et Père, je te remercie parce que cette église va de l'avant. Nous proclamons, Seigneur, tout ce que tu donnes à notre pasteur. Seigneur, merci parce que nous sommes assis dans un miracle. Et rien ne va nous retenir. Rien de ce que le diable veut faire contre nous. Rien de ce que les circonstances mettent dans notre vie. Seigneur, nous marchons la tête haute. Nous serons toujours la tête, jamais la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour toute parole que nous avons pu dire. Seigneur, qui nous éloigne de toi. Seigneur, merci parce que tu prends ces paroles et tu les jettes loin de toi et tu les oublies. Seigneur, je proclame une bénédiction, Seigneur, sur ton peuple. Merci pour cette église, parce que Seigneur, nous la voyons comme toi tu la vois. Merci pour les couples, merci pour les familles, pour les individus que tu amènes ici. Merci parce que nous avançons dans le miraculeux. Merci pour les délivrances, les guérisons, les familles restaurées, les couples transformés. Merci pour le miraculeux, Seigneur. Oh Seigneur, je décrète ta gloire et ta puissance pour nous. Seigneur, c'est notre partage, c'est notre héritage. Seigneur, merci pour des couples dans cette église qui sont bénis, qui marchent dans la bénédiction. Merci Père pour des enfants qui prophétisent. Oh Père, merci parce que tu construis une famille dans cette région. Tu construis et tu bâtis une église. Seigneur, merci pour tout ce que tu mets dans notre cœur. Oui Père, merci pour les gens qui vont venir de loin, Seigneur, être restaurés, être rafraîchis. Père, merci pour la consécration. Nous annulons toute parole diabolique à notre égard et à l'égard de chacune de ces personnes ici présentes. Seigneur, tout ce qui a pu nous retenir, nous l'éloignons de nous. Nous écartons toute oppression spirituelle. Seigneur, nous marchons dans la confiance en toi. Nous nous reposons en toi. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes bénis de toute bénédiction matérielle. Nous sommes bénis de toute bénédiction physique. Oh Seigneur, tu nous as bénis. Tu as dit tout est accompli. Et Seigneur, nous marchons dans le tout est accompli. Nous marchons dans la bénédiction. Nous marchons dans la foi. Nous sommes un peuple de foi. Nous croyons que les signes et les prodiges nous accompagnent. Nous croyons que les miracles nous accompagnent. Nous croyons que la joie nous accompagne. Nous croyons que la paix nous accompagne. Nous croyons que la bénédiction nous accompagne. Nous croyons que la restauration est pour nous, que la bénédiction est pour nous, que c'est notre partage. Nous croyons et nous appelons les anges de Dieu. Merci pour la protection divine. Merci parce que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Merci parce que toute ma famille va venir à Christ. Toute ma famille va venir à Dieu. Merci parce que mes voisins vont être touchés. Parce que la femme du magasin va être touchée. Parce que ma banquière va être touchée. Parce que tous ceux que tu mets sur ma route sont touchés par la grâce de Dieu. Merci parce que tu envoies ta parole au travers de ma bouche. Tu m'utilises pour être une bénédiction dans cette génération. Merci pour des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties. Merci pour la révélation de ta parole. Parce qu'elle est claire, les plus simples et les plus sages. Ta parole est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Nous sommes bénis en toi.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois toute cette foule de gens marcher dans la lumière. Oh, c'est tellement merveilleux de marcher dans la lumière. On marche pas dans les ténèbres, on marche dans la lumière, on marche ensemble, on rentre dans plus de lumière, la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse. Merci Seigneur pour ce ménage qu'on vient de faire. Ce ménage, toutes les choses, on récolte rien. On récolte rien du camp de l'ennemi. Mais on récolte la vie. On récolte la vie. On récolte la vie au nom de Jésus. Et c'est ça qu'on voit dans nos vies. On voit ta gloire s'installer dans nos vies. On voit, Seigneur, ton abondance dans nos vies. On voit ta paix au nom de Jésus dans nos vies. On voit ta joie, ta joie, ta joie dans nos vies. Je l'appelle sur les têtes de chaque personne ici. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la liberté. Merci Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Oh, ta parole ne faillira jamais Seigneur Dieu. Ta parole ne faillira jamais. Amen. On va chanter encore une fois. On va le dire avec foi. Ta parole Seigneur ne faillira jamais. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.